les chroniques Road Movies Ophic du professeur Rosemini.
Well, here we are on the road.
Yeah, that's where we are, all right.
Tous les dimanches à 11h30 sur le 888.
Survey some way 304 for more.
Et sur radiogrenouille.com.
J'ai lu quelque part que Richard Sarafian, le cinéaste, avait été biologiste avant de se mettre au cinéma, et que lorsqu'il était biologiste, il avait essayé de créer un être hybride entre un criquet, une sauterelle et un papillon. Et j'ai envie de voir là-dedans, dans cette tentative d'hybridation, une des manières pour s'emparer de Vanishing Point, son film le plus connu, road movie mythique de 1971, donc vraiment de la période de l'apogée, on pourrait dire, et à la fois de la naissance du genre road movie. Voilà, on pourrait voir dans cette hybridation comme une métaphore de l'impureté de ce film et de l'impureté du cinéma. On a souvent parlé du cinéma comme d'un art impur, comme d'un art hybride, justement. Et je voudrais analyser donc le film dans cette perspective. Notamment, ce qui est intéressant dans le film, c'est le décalage qu'on peut noter entre le comportement du personnage principal et l'interprétation qu'on peut faire de ce comportement. Alors, le personnage principal, il s'appelle Kowalski. Et son métier, en fait, c'est d'amener des voitures d'un point à un autre. Et un jour, il fait un pari. Donc, le départ du film, c'est un pari un peu absurde de relier Denver à San Francisco. Donc, ça fait plus de 2000 km vers l'ouest en moins de 15 heures. Voilà le pitch du film. Et donc, il va essayer de remplir ce contrat avec une voiture boostée et puis en se boostant lui-même, en prenant diverses drogues. Et alors ce défi, en fait, on pourrait dire qu'il signifie simplement l'immaturité du personnage et l'absurdité. On pourrait y voir aussi, autre interprétation, un désir d'autodestruction. J'ai déjà eu l'occasion dans d'autres chroniques d'expliquer en quoi l'autodestruction était un thème récurrent du road movie. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais l'action de Kowalski aussi va s'enrichir dans le film de plusieurs harmoniques. Alors d'abord, Sarafian va nous proposer régulièrement des flashbacks sur le passé de Kowalski qui vont faire de ce parcours autodestructeur une sorte de métaphore du destin de l'Amérique elle-même, avec des allusions notamment, bien sûr, à l'époque, à la guerre du Vietnam. Deuxièmement, ce qui va enrichir aussi le parcours de Kowalski, c'est qu'il va y avoir un métadiscours d'un DJ, un DJ noir et aveugle, qui s'appelle Super Soul, qui va fonctionner dans le film un petit peu comme un chœur dans une tragédie antique. Et d'une certaine manière, c'est le discours de Super Soul, davantage que le discours de Kowalski lui-même. On va dire Kowalski, d'ailleurs, ne tient pas de discours sur son acte. C'est le discours de Super Soul qui va donner à l'acte de Kowalski une dimension de révolte libertaire. Hein. Il va lui-même proposer une interprétation. Donc dans le film, on va avoir un personnage qui va nous proposer une interprétation du récit, d'où, je disais, la fonction du cœur antique. Troisième axe aussi qui va apporter des harmoniques au film, c'est les conditions de réception du film. On est en 1971, et donc les conditions de réception, elles sont propres à une époque, à un contexte. Et donc le parallèle, bien sûr, quand le film sort, est fait avec des films comme « 5 pièces faciles » de Raphaelson ou « Easy Rider » de Denis Hopper. Et donc la course folle de Kowalski, eh bien, elle va être interprétée par les critiques, par les spectateurs, comme ayant une dimension existentielle, voire, parce que le mot est à la mode à l'époque, voire existentialiste. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que ni Kowalski, je l'ai dit dans le film, hein, qui ne tient pas de discours sur son acte, ni Sarafian, le réalisateur lui-même, ne revendique ce concept d'existentialisme. En fait, Sarafian dit au contraire qu'il aime bien que son film soit ouvert à toutes les interprétations. Et une des raisons qui font que le film est interprétable, c'est l'inexpressivité de l'acteur principal, hein, Barry Newman, d'acteur pas très très connu d'ailleurs. Sarafian, au début, il voulait Gene Hackman. Et puis, en fait, il n'a pas pu, notamment à cause des producteurs. Il raconte même que la mafia serait intervenue pour imposer Newman. Et le jeu de Newman est assez étrange. On peut se demander si c'est simplement un mauvais acteur qui n'arrive pas à faire passer d'émotions, ou bien si c'est au contraire une brillante variation sur le désinvestissement. Dans les deux cas, en fait, on pourrait parler d'un effet Kouletchov. Hein, Peut-être que les auditeurs connaissent ce terme, l'effet Kuleshov. En fait, c'est la manière dont le visage de Kowalski dans le film, est, justement par le fait qu'il n'exprime rien, va constituer un miroir de projection pour chaque spectateur et finalement on va pouvoir projeter un petit peu des choses différentes et des choses multiples par rapport à nos attentes, à nos conditions de réception et puis aussi par rapport bien sûr aux autres plans et aux autres moments du film. D'ailleurs, le jeu de Barry Newman est tellement distancié que certains analystes ont considéré que le vrai héros du film n'était pas Kowalski, n'était pas Supersol non plus, parce qu'on pourrait dire que le héros c'est le DJ finalement, mais que c'était la voiture elle-même. La voiture qui est une Dodge Challenger blanche que Tarantino d'ailleurs a repris dans Boulevard de la Mort.
Hey, écoute ça.
Attention à tous les contrôles des autoroutes. Véhicule suspect, Dodge Challenger 1970 de couleur blanche.
Alors, la faible identification au personnage principal, elle augmente aussi notre attention pour d'autres signes et d'autres motifs du film. Par exemple, le film se caractérise par quelques images marquantes qui ont marqué la mémoire collective des cinéphiles. Par exemple, une très jolie jeune fille blonde et nue qui fait de la moto dans le désert à un moment. Par exemple aussi des allusions à l'art des années 60 et 70. Des allusions au pop art, par exemple. Il y a une scène intéressante où Kowalski en fait oblige un camion qui trace les lignes blanches sur la route à l'éviter, parce qu'il fonce vers le camion, et donc la ligne, eh bien, elle va indiquer la sortie de route, justement. Le camion va continuer à tracer la ligne qui va indiquer la sortie de route, et là, on est vraiment dans une esthétique proche du pop art. On peut penser aussi au Land Art, quand la Dodge Challenger, justement, quitte la route, et elle va tracer des lignes sur le blanc du sable du désert. Et là, il y a des plans qui sont quasiment monochromes, avec simplement, comme ça, des lignes qui se tracent. Et donc là, on est assez proche à la fois de la peinture monochrome qui peut se développer aussi dans ces années-là et puis du land art. Et évidemment, alors le désert m'amène à parler d'une autre épaisseur du film, ce sont les échos au western. Bien évidemment, donc dans le road movie, il y a souvent des allusions au western, il y en a beaucoup dans Vanishing Point. Et notamment, il y a une séquence justement quand Kowalski se perd dans le désert, il rencontre un vieux ramasseur de serpents. Et ce vieux ramasseur de serpents, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il est interprété par un acteur qui s'appelle Dean Jagger, qui justement est un acteur qui a joué dans un très grand nombre de westerns de la grande époque. Hein. Il a joué avec Fritz Lang dans les pionniers de la Western Union. Il a joué avec Samuel Fuller dans Les 40 tueurs. Il a joué dans Un homme est passé, dans La vallée de la peur, de Raoul Walsh, etc. Et donc, on sait que les auteurs de road movie, eh bien, ils aiment bien justement introduire dans leurs films des acteurs qui apportent avec eux leur filmographie, et notamment qui apportent avec eux leur filmographie westernienne. Or, un des thèmes majeurs du western, j'y reviens, c'est l'inadaptation de l'homme de l'Ouest, finalement, à l'avancée de la civilisation, et donc souvent son autodestruction. Un des thèmes majeurs du western, c'est l'autodestruction du westerner, du héros, qui va en fait refuser la modernité, qui va refuser le cloisonnement de l'espace, qui va refuser une normalisation de la vie, comme Kowalski, finalement, dans le film aussi, refuse le monde tel qu'il est et produit un acte qu'on pourrait quasiment qualifier de suicidaire. Si on se réfère à des films beaucoup plus anciens, on pourrait citer un film de 1925 de William Hart, qui est interprété et joué par William Hart, qui s'appelle Tumbleweed. Et les tumbleweeds, vous savez, sont ces sortes de chardons qui se détachent et qui errent dans le désert hein, au gré des vents, donc ces grosses boules de branches là. Et à un moment, dans Tumbleweed, le film de 1925, le tumbleweed justement est pris dans un barbelé. Il y a ici une métaphore tout à fait explicite dans le film du refus de la sédentarité et de la normalisation par le héros, hein, qui justement, comme un tumbleweed, erre dans le désert au gré de sa liberté, au gré des vents, et refuse de s'arrêter. Et ce symbole de la sauvagerie de l'Ouest, on va le retrouver dans Vanishing Point, puisqu'à un moment, le ramasseur de serpents cache la Dodge Challenger de Kowalski sous des branches et sous des tumbleweeds, justement. Et là, on peut voir toute l'épaisseur du cinéma américain, tout ce jeu de référence, tout ce qu'on appelle l'interfilmicité, hein, puisque ben, ici, les tumbleweeds, ils ont bien sûr une dimension métaphorique. À la fois, il renvoie justement à la liberté, au nomadisme, et il renvoie aussi, bien sûr, au western classique. On pourrait ici voir dans ce jeu cinématographique une allusion nostalgique, puisque d'une certaine manière, cacher la Dodge Challenger sous les tumbleweeds, c'est aussi cacher la révolte ou la pseudo-révolte de Kowalski et son anachronisme sous le cinéma, finalement, et le mettre à l'abri du réel.
Et voici la gazelle blanche traquée par les charognards aux gémissements sinistres. Les vilaines voitures de la police de la route sont à la poursuite de notre conducteur solitaire, le dernier héros américain, le centaure électrique, le demi-dieu, le superpilote, l'homme le plus rapide de tout l'Ouest. Les nazis dans leur sinistre voiture s'approchent du beau conducteur solitaire.
Et d'ailleurs, ce thème de l'inadaptation, de la fuite en avant et de la crise de l'identité américaine, on va le retrouver dans un film de Clint Eastwood, un film récent qui s'appelle Gran Torino, et dans lequel justement Clint Eastwood a choisi comme nom pour son personnage le nom de Kowalski, comme par hasard. Pour finir, et pour encore proposer un autre axe de lecture sur ce film, je voudrais finir sur une citation de Richard Sarafian lui-même, qui dans un entretien confère une dimension quasiment surnaturelle à Vanishing Point. Je termine donc en citant Sarafian. Vous savez, j'ai écrit une suite à Vanishing Point qui s'appelle Sand Mountain Symphony. C'est l'histoire d'un musicien, un guitariste virtuose capable de passer d'une dimension spatio-temporelle à une autre grâce à la musique. Un jour, il devient hors la loi, est pourchassé et disparaît.
Les chroniques Ron Movisophique du professeur Rosemini.
Well, here we are on the road.
Yeah, that's where we are, all right.
Tous les dimanches à 11h30 sur le 888.
Survey some way free off of the war.
Et sur radiogrenouille.com.